Est-ce que parmi vos résolutions de 2019, il y a celle de changer de voiture? Bande de chanceux. C'est le fun de s'acheter ou louer une nouvelle voiture. Alors, on va parler char avec Benoît Charrette, chroniqueur automobile, rédacteur en chef de l'annuel de l'automobile. Bonjour, Benoît.
Salut, Marie-Hélène.
Ça va bien?
Oui.
Bonne année 2019.
Hey, à tous les auditeurs, c'est vrai, on est juste le 3, là.
Oui, mais on a le droit encore pour quelques jours. Je dirais, moi, jusqu'au 4 ou le 5, là. Ouais. Jusqu'à ce que tout le monde ait
vraiment... pas mal au travail le 7, fait qu'à partir de là...
Jusqu'à ce que les vacances soient véritablement terminées.
Exact.
Qu'est-ce qu'on te souhaite sur quatre roues en 2019, Benoît?
Continuer.
Si on disait, je pourrais t'offrir l'auto de tes rêves, ce serait quoi?
Oh mon Dieu, je peux pas l'acheter. Carrera GT, modèle que j'ai essayé il y a une dizaine, en fait en 2004, qui est pour moi l'ultime voiture sport, si on parle de voiture sport. Mais comme beaucoup de gens, ma prochaine auto, je commence à regarder l'électrique. Là. Les modèles sont de plus en plus nombreux, la sélection commence à être intéressante, l'autonomie s'en vient bien. On est dans une année là que on va avoir beaucoup de nouveautés à ce chapitre-là. Là.
Bon, là, je suis contente que tu parles de l'électrique parce que c'était mon premier sujet. Moi, j'ai changé de véhicule ces derniers mois et je me suis intéressée à l'électrique.
Ouais.
Mais je me suis vite découragée parce que je trouve que les prix, véritablement, sont encore excessivement élevés. Est-ce que ça va finir par baisser?
Ça va baisser. En fait, ce qu'on voit en ce moment, c'est pas tellement une baisse de prix, c'est une augmentation d'autonomie. C'est-à-dire qu'on arrive à prix égal à mettre plus de kilométrage au niveau de l'autonomie des véhicules. Si on recule il y a 5 ans seulement, on était autour entre 120 et 150 km d'autonomie pour la majorité des voitures.
On ne se rend pas à Trois-Rivières là, de
Montréal. Non, tu ne te rends même pas à Drummondville. Ouais. Là. Alors, 5 ans plus tard, on est dépassé les 400 km pour des modèles qui coûtent à peu près le même prix que ce qu'on avait il y a 5 ans. Ce qu'on va commencer à voir tranquillement, il va y avoir une baisse de prix. Il n'y aura pas des baisses excessives parce que des batteries lithium-ion, ça coûte cher. Peu importe la manière qu'on le voit, les prix ont déjà baissé, mais ça coûte encore assez cher. On travaille sur des nouveaux matériaux pour créer des batteries. On travaille sur des batteries solides en ce moment qui n'incluent pas de lithium, qui est une matière encore assez rare. Il y en a. Sauf que si demain matin, le parc automobile mondial monte à 10, 12, 15 % d'électrique, il n'y a pas assez de lithium sur la planète pour fournir tout ce monde-là. Donc, on travaille avec du phosphate, on travaille avec des métaux non ferreux qui sont plus faciles à trouver, qu'on peut avoir en grande quantité, qui coûtent moins cher aussi, qui vont faire en sorte que les prix vont baisser. C'est encore à l'étude dans bien des cas, mais on a des modèles de batteries solides qu'on dit qui pourraient arriver d'ici les 2 prochaines années sur le marché.
Mais c'est vraiment à cause de la batterie que ça coûte aussi cher?
Oui,
ou c'est parce que dans les usines, on n'est pas encore équipé pour fournir?
Non, parce que, je veux dire, fabriquer un châssis, que ce soit un châssis de véhicule électrique...
Ça coûte la même affaire.
On est à peu près dans les mêmes prix, sauf qu'une batterie... ça coûte assez cher, là, ça peut être la moitié du prix de l'auto. Là. Donc, si vous avez une voiture à 45 000, votre châssis va coûter 20 000 comme à peu près la majorité des voitures du même format. Il y a des exceptions, bon, comme Tesla, la voiture est en aluminium, donc ça coûte un peu plus cher à fabriquer, mais en général, c'est la batterie qui fait que le prix est plus élevé.
Bon, si on l'achète, la voiture électrique, oui, aujourd'hui, là, tu considères quand même que c'est un bon achat, même si les paiements par mois vont être plus élevés, parce qu'on finit par être gagnant après combien de temps? Là?
Bien, tout dépend du kilométrage qu'on fait, mais pour avoir parlé avec plusieurs gens, ceux qui font, là, je dirais, l'équivalent d'une voiture à essence, là, un 20-25 000 km par année, plusieurs m'ont dit qu'en 2 ans, 2 ans et demi, ils ont récupéré l'argent qu'ils ont dépensé en plus par l'économie d'essence qu'ils ont fait au bout de la ligne. Parce que bon, oui, ça coûte quelques dollars pour faire le remplir d'électricité, mais on parle d'une charge qui vont remplir le véhicule, les batteries, ça va coûter 2-3 $.
Ouais.
On est loin d'un plein d'essence. Donc, l'économie est réelle. Et pour les gens qui l'utilisent sur une base quotidienne, ceux qui ont une voiture électrique n'ont pour la plupart pas envie de revenir à une voiture à essence, parce qu'on voit les bénéfices. Et l'autre gros avantage d'un véhicule électrique par rapport à une voiture à essence, il y a beaucoup moins d'entretien. Il y a peu de choses qui font défaut sur un véhicule électrique. Il y a toujours de l'entretien à faire. Il n'y a pas un véhicule où il y a zéro entretien. Mm-hmm. Mais c'est loin d'être l'équivalent d'un véhicule à essence. Donc, on commence à avoir des modèles intéressants. J'ai essayé la Kona électrique de chez Hyundai récemment, qui offre 415 km. Les prix sont sortis là, il y a quelques, en fait, il n'y a même pas une semaine. C'est entre 46 et 52 000. On est à peu près dans la moyenne des véhicules à ce prix-là. Ça se compare peut-être à une Bolt du côté de chez Chevrolet. Mmh. Donc, à 415 km, on peut penser faire un Montréal-Québec, là, puis se charger à Montréal ou à Québec et revenir. Là. Donc,
est-ce
ça commence à être intéressant.
Est-ce que tu considères intéressant de louer un véhicule électrique ou c'est mieux de l'acheter? Là?
Ça dépend des offres qu'on va vous faire. Si les taux de location offrent un financement avec un pourcentage intéressant, ça peut devenir une acquisition intéressante. Ça peut aussi être pour des gens qui vont l'utiliser pour le travail. Il y a des avantages fiscaux à louer versus acheter. Donc, il faut toujours s'informer. Il n'y a pas de solution unique. C'est de s'informer qu'est-ce qui va être avantageux pour vous à ce moment-là.
Donc, Benoît, les gens qui attendent que les prix baissent vraiment pour avant d'acheter un véhicule électrique, attendent peut-être vainement parce que ça va toujours coûter un peu plus cher.
Ça ne sera pas dans l'immédiat. Ce qu'on va voir dans l'immédiat, je dirais dans la prochaine année et demie, c'est le nombre de véhicules électriques disponibles qui, lui, va augmenter. Puis dans des créneaux de marché où on en avait moins. Bon, on parlait du Kona, qui est un petit utilitaire. On n'en a pas beaucoup. On en a aussi dans les modèles plus haut de gamme. Jaguar est arrivé avec le I-Pace.
Ça, c'est combien, ça?
Ça, c'est 100 000 en montant. Là, ouais. Là c'est ça. On est dans le cours de chez Tesla. Là. On est à peu près... D'ailleurs, c'est un client visé. Là. Jaguar s'en cache même pas. On va faire la même chose du côté d'Audi. On a le Porsche Taycan qui s'en vient, qui va lui aussi être au-dessus de 100 000. Bon, c'est sûr que c'est plus facile pour ces compagnies-là d'amener des véhicules à très haut prix. Parce qu'on fait quand même du profit si on le vend très cher. C'est plus difficile de le vendre moins cher parce que le profit est plus faible.
Ouais.
Donc, pour des compagnies de luxe, c'est avantageux dans leur cas parce qu'ils peuvent justement même faire du profit même si le véhicule coûte plus cher à fabriquer.
Est-ce que les véhicules hybrides sont appelés à disparaître?
Non, ah non, absolument non. Pas. Non. Les véhicules hybrides, l'hybridation va devenir partie intégrante d'à peu près toutes les voitures dans le court et le moyen terme parce que les lois sur les émissions polluantes et les consommations de carburant vont être de plus en plus rigides. Donc, les constructeurs devront trouver des méthodes d'être plus performants en termes de consommation et d'émissions polluantes sans perdre la performance du moteur.
Ouais.
Donc, la façon la plus facile de le faire est... je dirais la plus écologique, c'est d'ajouter de l'hybridation au véhicule. Et ça, on le voit et on va continuer de le voir. Là, je dirais, ça va devenir... Autant un véhicule hybride était, je dirais, une curiosité il y a une quinzaine d'années, autant maintenant, chez plusieurs constructeurs, on l'inclut, puis on n'en fait pas une grande publicité.
Non.
On fait simplement dire, bon, et il y a de l'hybridation, on le voit là à tous les niveaux.
Hey, ça va vite quand même. Là.
Ça va très vite.
Dans l'industrie automobile, depuis 5 ou 6 ans, là, puis les prochaines années vont être aussi impressionnantes.
Bien, en fait, c'est que là, on opère un virage en ce moment. Ça a commencé, je dirais, il y a un an et demi, puis ça va encore durer pour les 2 prochaines années, peut-être les 3 prochaines années, là, mais jusqu'à l'horizon 2021-2022, les constructeurs automobiles prennent le virage vert. C'est pour ça, en ce moment, qu'on voit là, des grands ménages qui se font. Ford a décidé qu'on vendrait pratiquement plus d'auto en avril dernier, à part la Mustang. Pourquoi? Parce qu'on veut se concentrer sur des modèles qui sont payants, les utilitaires et les camions, comme le F-150, parce que c'est avec l'argent qu'on ramasse en vendant les modèles payants qu'on est capable d'investir dans la technologie verte.
En même temps, Benoît, il n'y a pas un paradoxe. Hein? Tu me parles du vert, de ce souci écologique qu'on a, puis de l'autre côté, il y a les gros camions, les pick-up, puis les utilitaires.
Il y a aussi des obligations financières. Et pour financer les technologies vertes, ça coûte pas des millions, ça coûte des milliards de dollars. Là. Des compagnies comme Volkswagen ont annoncé qu'ils vont investir 25 milliards dans les 5 prochaines
années. Ils investissent, eux autres.
Oui, ça leur a déjà coûté 24 milliards depuis 2015 en pénalité, bon, pour le fameux scandale du Dieselgate.
Ouais.
Mais on doit mettre de l'argent de côté. GM a fait la même chose. On a fermé 5 usines, dont une au Canada, l'usine d'Oshawa. Pourquoi? Pour une restructuration financière importante, pour mettre de l'argent de côté, pour investir dans les technologies vertes. Parce qu'on le sait, au début, les compagnies ne feront pas d'argent avec ça. On fait de la recherche, du développement, on vend des modèles. Quand ce n'est pas au prix coûtant, c'est des fois à perte. avant qu'il y ait un engouement suffisant pour rentabiliser tout ça, on doit se prémunir et se garder un coussin financier assez important. Et là, on fait ça en ce moment. On le voit, là, même 2019, il va encore avoir beaucoup de changements, encore de nouveautés. Il y a d'autres annonces qui vont arriver. Il y a des alliances qui vont se faire. Là, on va avoir encore beaucoup de nouvelles cette année.
Je lisais il y a quelques jours à peine dans la presse, Benoît, un article où on disait que les perspectives des prochaines années, surtout 2019 dans le domaine de l'automobile, ça va être difficile.
Oui.
On va avoir des...
c'est la restructuration qui veut ça. C'est-à-dire quand on fait une opération de dire, OK, on va laisser de côté ce qui n'est pas payant, on va garder ce qui est payant, mais il faut aussi préparer l'avenir. Il y a des coupures qui se font, autant au niveau des postes des employés qu'au niveau des usines, qu'au niveau des modèles. Donc, évidemment, tu as moins de modèles sur la route, tu vas avoir moins de ventes. C'est clair. Ouais. Même si les modèles ne se vendent pas en quantité, ben, ils se vendent pareil. Donc, des années de restructuration, ce sont généralement des années de vache maigre. 2018 aura été une année assez ordinaire au niveau des ventes. On l'avait prévu. On prévoit que 2019 sera pas
sensiblement
mieux.
Sensiblement la même chose.
Sensiblement la même chose. On prévoit que 2020, même 2021, là, on va commencer à aller de l'autre côté. Les technologies plus vertes vont être mieux vendues, disons-le comme ça. Et on va recommencer à avoir des ventes là, qui peuvent être un peu plus intéressantes.
On a annoncé il y a quelques mois en Ontario qu'on arrêtait les subventions pour les achats de véhicules électriques et hybrides. Au Québec, les subventions sont encore...
sont toujours en place.
En place, oui.
D'ailleurs, ça a profité, il faut le dire, là, au Québec, pour avoir parlé à quelques concessionnaires, parce que, bon, les provinces achètent... c'est-à-dire les constructeurs prévoient pour les provinces un nombre X de véhicules électriques. Évidemment, quand on a coupé les subventions, qui en passant étaient de 14 000 $ pour un véhicule électrique en
c'était
Ontario,
beaucoup,
c'est généreux, là. Quand on a coupé ça, évidemment, les ventes sont tombées et ça a profité au Québec parce que beaucoup de ces véhicules-là sont arrivés chez nous. Et ça a diminué de façon intéressante là, la liste d'attente qu'on avait pour des achats de véhicules électriques.
Bon, au retour de la pause, Benoît, on va répondre à des questions plus personnelles sur des achats concrets de véhicules que vous avez peut-être l'intention de faire en 2019. Allez-y par catégorie, tu sais, les véhicules familiaux, les véhicules utilitaires, les petites voitures peut-être, si vous avez l'intention de vous acheter votre première auto.
Absolument.
Alors, Benoît est là pour répondre à
on
vos
est
questions.
Tout ouvert à tout le monde.
Pour les gens de Montréal, le 514-790-9850 et sans frais de partout au Québec, le 1-866-790-9850. Notre invité, Benoît Charrette, chroniqueur automobile. Alors, si vous songez faire l'achat d'un nouveau véhicule en 2019, la personne toute désignée à qui vous voulez parler, elle est devant moi, elle s'appelle Benoît Charrette. Ben, il s'appelle Benoît Charrette. Il est chroniqueur automobile et rédacteur en chef de l'annuel de l'automobile. Beaucoup d'appels, Benoît.
Bon, on va essayer de faire un maximum.
Bon, d'abord, Michael. Bonjour, Michael.
Bonjour, comment allez-vous?
Bien, merci vous-même. Michael, vous songez faire l'achat d'un Jeep Wrangler?
Ben, je suis un propriétaire de Wrangler depuis les 6 dernières années. Et je suis tombé en amour avec le dévoilement la semaine passée du Jeep Wrangler en version pick-up.
Le Gladiator.
Ah oui, il est malade. Honnêtement, je sais que c'est pas le véhicule le plus environnemental, mais...
C'est basé sur un châssis de Jeep Wrangler Unlimited qu'on a modifié, renforcé. Je l'ai vu parce que je suis allé avec Jeep à Moab, au Utah, et on était en train de tester les Gladiators sur les mêmes terrains où nous, on allait essayer les Jeeps. Et j'avoue que pour un amateur de pick-up, c'est intéressant parce qu'il va avoir, bon, il va avoir le moteur Pentastar au début. On va amener un moteur diesel plus tard. On va pouvoir tirer jusqu'à 11 000 livres avec le moteur diesel et avoir les mêmes caractéristiques de franchissement qu'un Jeep. Donc, c'est un Jeep plus un pick-up en un véhicule. Fait que ceux qui aiment le style, c'est sûr que ça va fonctionner. Les prix sont pas donnés, là, ça va commencer dans 50 000.
Puis vous allez être,
puis un modèle Rubicon, là, on va être à 65 000 et plus. Là.
Merci beaucoup, Michael, et bon achat de véhicule en 2019.
S'il aime les Jeep, il va adorer Gladiator.
Il va être heureux.
C'est sûr.
Bonjour, Marc. Marc, Benoît Charrette vous écoute.
Bonjour, bonne année, santé.
C'est
bonne
gentil.
Bonne année, pareillement.
Et une belle auto en 2019, Marc. Vous allez vous acheter quoi?
Ben moi, présentement, j'ai un Jetta TDI.
Ouais. Quelle année?
Je fais 2015.
OK. Le dernier avant-tu de marcher.
Ben ouais, c'est ça, ouais.
Exact.
Je suis, parce que moi, je fais 1600 km par semaine de okay. travail.
OK. Fait que le diesel est justifié dans votre cas, là.
Oui. Bien, je voudrais savoir, dans la voiture électrique, présentement, c'est quelle la plus haute autonomie?
Ben moi, ce que j'ai, on en parlait avec Marie-Hélène tantôt, j'ai essayé le Kona chez Hyundai, qui a 415 km d'autonomie. Bon, évidemment, dans des bonnes conditions, c'est-à-dire l'été, l'hiver, on peut parler de 300 peut-être à 325, dépendamment là, de la température. Vous avez du côté de Chevrolet la Bolt, qui a 383 km d'autonomie. Sinon, il y a le Model 3 chez Tesla. La batterie la plus performante va vous amener au-dessus de 400 km, mais c'est un peu plus cher. Là. On parle de 75 000, on parle plus de 50 000. Là. Il y a une différence de prix qui est quand même significative. Là.
Merci
est-ce
beaucoup.
Que la,
oui.
Est-ce que, deux secondes, la Golf 1, est-ce qu'elle est rendue à 200? Est-ce que dans deux ans, elle va être mieux?
Bon, on nous a dit qu'on allait être mieux, mais on ne nous a pas dit de combien. Moi, mon idée, ça va être entre 300 et 350, mais là, c'est moi qui vous dis ça, c'est pas Volkswagen. On ne nous l'a pas confirmé, on devrait l'apprendre d'ici l'été.
Merci beaucoup, Marc, de votre appel. Au bout du fil, Benoît Lindan, qui veut faire l'achat comme beaucoup de gens, parce qu'on se dit... Il y a un paradoxe, parce qu'on, je pense que l'utilitaire est encore le véhicule le plus vendu
oui,
là, au pays. Mais beaucoup de gens font aussi l'achat de petits véhicules, notamment quand on habite les grands centres.
Exact.
Bonjour, Linda. Vous cherchez un petit véhicule, vous?
Oui, exactement. Moi, je change de cas à peu près aux 5 ans. Je suis pas prêt pour l'électrique. Ça va être la suivante. L'automne prochain, je change de véhicule et j'envisage la Mazda 3.
Oui.
Donc, j'ai beaucoup entendu parler. Est-ce que c'est une bonne idée?
La bon. Honda 3,
non,
c'est
non, la
ça?
Mazda 3.
La Mazda.
Mazda 3, en fait, on a présenté le nouveau modèle au Salon d'Auto à Los Angeles en novembre. On va aller l'essayer sous peu. On attend les invitations. Nouveau moteur qu'on appelle bon le Sky Active. En fait, c'est qu'on va présenter dans un des modèles de la Mazda 3 la nouvelle génération du moteur Sky Active qu'on appelle le Sky Active X. En fait, qui va être un moteur plus petit, 2 litres, qui va avoir un taux de compression semblable à un moteur diesel, donc un très haut taux de compression qui va faire qu'on va avoir une consommation proche d'un moteur diesel dans un véhicule à essence. Moi, j'ai essayé ce moteur-là il y a un an et demi sous forme de prototype et j'avoue avoir été agréablement surpris. Puis la Mazda 3, bon, on a quand même assez changé le modèle. Il va avoir une berline puis un modèle sport qui est le modèle à haillons. Puis c'est à ce jour des très bons modèles. Donc je vois
est-ce
pas pourquoi ça.
Est-ce que c'est vraiment
sera...
une petite auto ça ou
c'est... Je dirais que c'est pas une petite. C'est ouais. une compacte. C'est pas une sous-compacte, mais c'est une compacte. Ça se compare à Honda Civic. Ça se compare à un modèle comme la Nissan Sentra. C'est dans cette catégorie de véhicules là.
Merci beaucoup Linda.
Bonne chance.
Quand on achète un véhicule, là, combien on devrait en essayer? Moi je suis du genre à aller chez le concessionnaire, en essayer un ou deux, puis faire mon choix
bon,
après.
Écoutez, moi je dis aux gens, là, d'abord, renseignez-vous. Regardez, évaluez vos besoins, ce que vous avez besoin d'avoir, et généralement, on a 2-3 véhicules en tête. Puis quand vous allez l'essayer, prenez le temps de bien l'essayer. Là. Partez pas 3 minutes avec l'auto, là. Prenez 20 minutes, prenez une demi-heure, essayez-le dans des circonstances que vous faites habituellement. Si vous faites plus de ville, allez faire un circuit de ville si vous êtes plus de la route. Puis moi, j'avais même dit à une famille, un moment donné, mon garçon joue au hockey, amenez sa poche de hockey. Il n'y a rien de pire que d'acheter le véhicule, t'arrives chez vous, puis la poche de hockey ne fait pas dans le véhicule. Amenez-la. C'est pas grave si vous l'amenez, les gens disent, ouais, mais je peux pas amener. Ben oui, vous pouvez amener votre poche de hockey. Si ça fait partie de ce que vous utilisez, tout l'hiver.
Fréquemment,
t'sais,
ben
là,
oui.
Des parents d'aréna, là, il y en a qui nous écoutent, puis ils disent, oh oui, ça me concerne. Bon, ben amenez ce que vous avez à amener.
Parce que souvent, quand
un vrai essai, là.
Quand on arrive chez le concessionnaire ou qu'on fait l'essai sur route, il y a plein d'affaires auxquelles on pense pas.
Ouais, puis les gens sont souvent un peu intimidés, puis bon, l'expérience est des fois un peu stressante. Oubliez jamais que le gros bout du bâton, là, c'est vous qui l'avez. C'est vous qui achetez ou qui louez le véhicule, là. Donc, si vous n'avez pas les réponses à vos questions, si vous sentez que l'atmosphère n'est pas bonne puis qu'on vous fait de la pression, allez ailleurs, Seigneur.
Est-ce qu'on a un petit pouvoir de négociation?
Bien, on a toujours un pouvoir de négociation. Moi, je dis toujours aux gens, là, allez pas magasiner un auto le 3 du mois, comme aujourd'hui. Allez-y le 28 ou le 29 du mois.
Ah?
Parce que tous les concessionnaires ont des objectifs de vente de chaque mois.
Et à la fin du mois, ils ont un peu plus faim.
Ben, si tu n'as pas atteint tes objectifs à la fin du mois puis qu'il t'en reste 3-4 à vendre, tu vois, un peu plus négociable qu'au début du mois. Ça, c'est un truc. Il y a des mois tranquilles aussi. La fin de l'année, habituellement, là, les novembre, décembre, c'est des mois lents. Donc, on arrive à ces objectifs de fin d'année. Là aussi, on est un petit peu plus négociable.
Il y a Steve au bout du fil qui a une question pour toi, Benoît. Bonjour, Steve.
Bonjour.
Oui, Benoît Charrette vous écoute.
Bonjour. Moi, j'ai présentement un Honda CR-V, puis je recherche un véhicule dans la même...
Un équivalent.
Un équivalent, mais j'ai besoin de remorquer plus.
OK.
Pour savoir ce que vous pouvez me conseiller. Comme exemple, j'aurais besoin de 2500 peut-être. Là.
Bon, il y a le Ford Escape, dans les modèles 4 cylindres, dans cette catégorie-là, est celui qui offre le meilleur remorquage à 3500 livres avec le moteur de 2 litres turbo. La majorité dans cette catégorie-là sont autour de 1500 livres. Je pense que le CR-V en fait partie. Là, j'ai pas mon livre avec moi où on a toutes les capacités de remorquage, mais je sais que dans cette catégorie-là, c'est l'Escape là, qui offre la meilleure cote de remorquage avec 3500 livres.
OK, mais il n'y a pas... moi, je suis plus attiré vers le japonais.
Bon, le japonais, vous pourriez aller voir à ce moment-là. Je pense que le nouveau RAV4 avec le 2,5 litres là, que je viens d'aller essayer il y a à peine un mois, je pense qu'on est autour, c'est 2500 ou 3000 avec le 2,5 litres. Il faudrait vérifier, mais ça pourrait être intéressant. Le CR-V n'a pas changé. Le Rogue, il n'est pas mieux que le CR-V. Puis si on regarde du côté de qu'est-ce qui nous reste d'un japonais, bon, il y aurait le 6 cylindres dans le Outlander qui pourrait vous donner, je pense, 3000 livres ou 3500 livres aussi.
Merci beaucoup de votre appel, Steve. On a le temps pour un dernier, Benoît. Pierre-Luc, qui veut faire l'achat d'une fourgonnette. Hein, c'est ça, Pierre-Luc?
Exactement, une fourgonnette, une fourgonnette, mais légèrement usagée, peut-être un an ou deux.
OK. Vous avez quoi comme budget, Pierre-Luc?
Autour de 20 000 $ Okay. 25 000 maximum.
Bon, c'est sûr que 20-25 000, on ne peut pas aller dans le Honda Odyssey, on ne peut pas aller dans le Toyota Sienna. Vous n'aurez jamais ça à ce prix-là après un an ou deux. Il va falloir attendre 5-6 ans avant d'avoir ce prix-là. Moi, le premier qui me vient en tête, c'est le Caravan. Parce que, un, c'est le moins cher à l'achat neuf. Deux, c'est le moins cher à l'achat d'occasion aussi. C'est parmi les plus pratiques dans tout le modèle des fourgonnettes qu'on a avec le fameux Stow & Go, les sièges qui se cachent dans le plancher. Je vous avouerai que c'est pas le plus fiable, mais par contre, depuis que le moteur Pentastar est sous le capot, le 3.6, le V6, c'est un moteur qui s'est avéré raisonnablement fiable. Il n'y a pas eu de très grands problèmes. Puis ça demeure un véhicule extrêmement pratique. Donc, moi, je vous enverrai là sans hésiter.
Merci beaucoup, Pierre-Luc. Merci, bonne fin d'année. Benoît, merci infiniment. Franchement,
c'est correct.
Tu sais,
ça fait
plaisir. On te garderait toute la journée, puis tu passerais le,
bon,
toute la journée.
On va se commander un lunch, puis on va continuer
on
ça.
On se commande du poulet, puis on continue. Pour les gens qui veulent suivre Benoît, il y a ton site Internet.
Oui, benoîtcharrette.com. On est là tous les jours. Il y a de la matière qui rentre tous les jours. On va d'ailleurs grandement améliorer le site web en 2019. Je vais tout changer d'ici quelques semaines. Des éphémérides, des nouvelles, des essais routiers neufs et d'occasion, tout est là.
Merci beaucoup, Benoît.
Merci,
bonne année 2019.
Merci.
Bonne conduite. Bye. Au retour, bon, un autre sujet qui vous fait réagir beaucoup à chaque fois qu'il en est question sur nos ondes. On va parler du pot. Est-ce que vous en avez vu pour la première fois dans le temps des fêtes? Avez-vous essayé ça? Est-ce que vous en avez discuté en famille? On parle de tout ça au cours de la prochaine demi-heure. À tout de suite.